On en parle.
Éviter une grave crise d'adolescence, c'est possible. Ça dépend notamment de nous autres, parents, de notre attitude. On va en parler avec Pascal Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé en psychologie clinique, spécialisé dans l'accompagnement des ados et de leurs parents à Genève et à Nyon. Alors vous allez nous donner des pistes pour les 8-12 ans, pour qu'ensuite cette période difficile de l'adolescence se passe le mieux possible. Mais jusqu'à un certain point, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien de plus normal qu'un ado soit en crise?
La notion de crise, c'est le passage d'un état à un autre. Donc l'adolescence est un moment où on passe de l'enfance à l'âge adulte, c'est la transition. La phase de l'enfance, c'est la phase de dépendance. Sa survie dépend du bien vouloir des parents, donc ça donne un pouvoir aux parents et un manque d'autonomie de l'enfant. L'adolescence, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est je rentre progressivement dans la notion de responsabilité, dans la notion de ma vie dépend de moi. Il y a un apprentissage à faire de ce côté-là et l'enfant qui passe donc justement de ce moment de dépendance au moment de « je suis autonome » passe par un moment de perte de repère. Et ce qui pose problème dans la crise de l'adolescence, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas la transition, puisque la transition, on en vit tous, y compris à l'âge adulte. Ce qui va poser problème, c'est vraiment l'idée de « je sais pas où je vais, je sais pas dans quelle direction ». Et je me retrouve dans le non-sens, dans l'inquiétude et les angoisses.
Mais à partir de quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter? Faut s'inquiéter si l'ado a des réactions violentes ou est complètement apathique?
Pour moi, ce sont deux symptômes qui montrent que l'adolescent va pas bien. C'est vraiment ou l'adolescent ou l'enfant. C'est des modes d'expression qui sont d'un côté, la violence, on va dire que c'est plutôt la partie d'en rébellion, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord contre le système, je m'oppose au système. L'apathie, c'est plutôt je renonce, je démissionne. Donc cette soumission, elle est problématique par démission, c'est-à-dire que l'enfant tout d'un coup ne rentre plus en matière. Donc ce qui est important, c'est que l'enfant puisse trouver les mots pour dire, plutôt que de se comporter comme ceci. C'est-à-dire c'est qu'il puisse exprimer avec des mots ce qu'il dit avec son comportement. À partir du moment où les mots sont exprimés, où on peut dire ce qu'on ressent, d'abord il y a un soulagement, on a tous vécu ça, c'est-à-dire que quand on peut dire, là je me sens pas bien, il y a une partie de soulagement. Et puis une fois qu'on sait ce qui va pas bien, on peut commencer à trouver des solutions. Donc l'expression est vraiment quelque chose d'important.
Stéphane Delettro.
Oui, Pascal, on va donc ce matin et d'ici 15 jours explorer avec vous quelques pistes pour essayer donc que cette adolescence se passe le mieux possible. On l'a dit, ça dépend aussi des parents. Et le rôle des parents, tout d'abord, c'est aider l'enfant à donner un sens à sa vie.
Le parent, il a le rôle d'éducateur, il a le rôle de guide, de tuteur. Il doit mettre des limites, il doit mettre du cadre, mais il doit aussi être aimant, il doit être accompagnateur. Bref, il a un rôle vraiment fondamental. Il est extrêmement important qu'il puisse montrer le chemin, la direction à son enfant. J'ai souvent entendu dire, les parents, tu comprendras quand tu seras grand, par exemple. Et je trouve important que les parents aussi puissent prendre conscience que c'est important d'expliquer le monde dans lequel on vit. Si on peut dire à l'enfant, mais voilà, là, il est en train de se passer ceci, ceci, cela, et voilà pourquoi, en trouvant les mots justes, puisqu'évidemment, on ne parle pas de la même façon à un adulte ou à un adolescent qu'à un enfant. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver les mots justes pour que l'enfant puisse comprendre le monde. Mais botter en touche, comme on peut faire parfois autour de, tu comprendras quand tu seras plus grand, est une façon souvent de se sauver soi en tant qu'adulte, parce qu'on a des questions qui sont pas faciles. Mais ça rend pas service à l'enfant. Donc c'est important que l'enfant puisse comprendre ce que c'est la vie, qu'il puisse prendre une direction et trouver le chemin.
Et au-delà des mots, ce qui marche le mieux quand même, c'est l'exemple. La cohérence, ça aide toujours.
Oui, beaucoup on entend les... Aujourd'hui on dit, oh là là, cette génération d'adolescents, ils sont apathiques, ils sont pas drôles, ils sont jamais motivés, ils ont envie de rien. Mais quand on écoute les discours des adultes, comment ils parlent de leur propre vie? Est-ce qu'ils disent qu'ils aiment ce qu'ils vivent? Est-ce qu'on dit la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue, on va être heureux, la vie est sympa? Ou est-ce qu'on entend plutôt la vie est difficile, il faut être prudent, il faut avancer un pas après l'autre, la vie, vraiment la société, il n'y a que des requins, il faut être hyper attentif? Est-ce qu'on donne vraiment envie à nos adolescents de vivre la vie qu'on leur propose? Donc je crois important que les parents soient conscients de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis moi de ma vie? D'abord, est-ce que ma vie me plaît? Je ne peux pas attendre de l'adolescent qu'il ait une vie qui lui plaise si moi ma vie ne me plaît pas. J'ai besoin aussi de travailler sur qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Et puis de montrer à mon enfant que j'ai envie de me lever le matin si je veux que lui ait envie de se lever. Donc c'est donner des exemples, c'est dire voilà comment je m'y prends pour réussir ma vie. Et ça, ça marche mieux que tous les discours.
Donc une piste, ça serait de faire partager ses passions et ses valeurs?
Oui, c'est un peu on apprend une langue. C'est-à-dire que si je peux dire à mes enfants, voilà ce que j'aime dans la vie, voilà ce qui me porte, voilà ce qui est important, je vais lui donner envie de faire la même chose. C'est-à-dire que les enfants fonctionnent par imitation. on peut leur tenir tous les discours possibles, mais si nous vivons, nous, une vie en accord avec nos valeurs, si on vit des choses qui nous font plaisir, les enfants vont imiter en disant « Ah ben papa, maman, il a ou telle passion, je vois bien que ça lui fait plaisir de faire cette activité. Moi aussi, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de trouver quelque chose qui me plaît. » Et l'imitation, c'est vraiment l'idéal. Encore une fois, on revient à la notion d'exemple.
Et puis, il faut aider l'enfant à identifier, puis à développer ses points forts, le valoriser.
La notion de talent, on en avait déjà parlé par le passé, mais c'est vraiment fondamental la notion de talent. On a tous des talents, les enfants en ont tous, ils ne le savent pas forcément et c'est là que ça pose problème. On est dans une société où on valorise peu et on dit beaucoup ce qui ne va pas bien, même si c'est vrai qu'il y a une tendance à l'inversion maintenant. Mais globalement, on valorise assez peu. Et on est dans une culture de l'effort, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les efforts soient faits et c'est quand on fait des efforts que c'est valorisé. Or, la définition d'un talent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est facile pour moi. C'est un peu cette idée de les fées qui se sont penchées sur mon berceau et qui m'ont donné un talent que je n'ai pas besoin d'apprendre puisque je le sais déjà. Or, un enfant, il a de la peine à identifier que c'est un talent puisque c'est facile. Donc là, le regard de l'adulte est vraiment important parce que l'adulte va pouvoir lui dire « mais en fait, ça, c'est un talent, c'est une richesse, c'est quelque chose que tu as et qui t'appartient et qui a une spécificité. » Mais il n'y a que le regard de l'adulte ou de l'autre qui peut dire « mais là, vraiment, tu as une richesse sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour réussir ta vie. » Et là, les parents sont vraiment à la première place pour le faire.
Vous le disiez en début d'émission, les adolescents ont parfois de la peine à exprimer leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc on peut déjà tout petit apprendre à identifier, ensuite à communiquer sur leurs émotions.
Les émotions, c'est un petit peu le point de repère. C'est ce qui va me permettre de dire que ce que je fais me plaît ou pas. Si je n'avais pas d'émotion, je ne pourrais pas me diriger dans la vie. Je prends souvent l'exemple de la peur. J'explique aux adolescents que si on ne pouvait pas avoir peur, on serait tous morts. Donc l'indicateur essentiel, c'est l'émotion. On apprend peu aux adolescents et aux enfants, d'une manière générale, à identifier comment ils se sentent. Donc les ados, vous leur demandez comment ils se sentent, ils vous disent « beuh », un truc du genre... Ça va du « je me sens bien, je me sens mal ». Mais à l'intérieur de ça, il y a assez peu de variations. Et c'est important que les adultes puissent dire comment eux se sentent. Parce que s'ils peuvent dire « mais là, je me sens comme ceci parce qu'il s'est passé cela », ça va donner du sens à l'adolescent. Il va comprendre comment fonctionnent les émotions. Et c'est la meilleure boussole, c'est-à-dire c'est une façon de dire « bah ouais, là, il y a des choses qui me plaisent, là, il y a des choses qui ne me plaisent pas, puis je peux diriger ma vie grâce à ça. »
Mais ça, faut commencer petit avec eux. Ce n'est pas lorsqu'ils ont 14-15 ans qu'on va parler d'émotions avec eux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut acquérir déjà depuis sa plus jeune enfance.
Tout à fait. Les enfants ont une capacité à ressentir des émotions que l'on perd avec l'âge. Parce que, on est dans, encore une fois, l'école, la scolarisation fait qu'on cherche à normaliser les enfants, ce qui est apprendre à vivre en société, ce qui est normal. Mais c'est vrai que du coup, on perd ce contact avec les émotions. Progressivement, on demande aux enfants de ne pas trop ressentir, pour ne pas trop exprimer. Donc les enfants ont cette capacité à ressentir que nous perdons en grandissant. Et en plus, avec la crise d'adolescence qui rajoute un peu de confusion. Donc c'est un apprentissage à garder sur la distance, plutôt que de dire à l'enfant « non, arrête de... » Enfin, on ne veut pas d'expression d'émotions trop fortes. C'est important de leur apprendre à modérer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir... on vit en société, donc il y a un cadre. D'apprendre à modérer, mais pas à éteindre. C'est toute la distinction.
Il faut, dites-vous, apprendre à son enfant à faire les bons choix pour lui et son environnement. Autrement dit, lui laisser peu à peu de l'autonomie.
Oui, la notion de choix, c'est quelque chose d'extrêmement important. On attend des adolescents qui arrivent à 12, 13, 14, 15 ans de choisir une voie professionnelle avec une notion d'apprentissage. Sauf que pendant toute l'enfance, on leur a dit que c'était les parents qui savaient mieux qu'eux. Donc pendant toute l'enfance, c'est les parents qui décident de l'école, du lieu de vie, du menu, de comment ils vont s'habiller, enfin toutes sortes de choses. Après, il arrive à l'âge de 15 ans, puis on lui dit « maintenant, tu dois choisir une voie professionnelle ». Puis l'ado, il est un peu paumé. Donc ce qui est important, c'est de commencer par faire des choix cadrés, c'est-à-dire dès la petite enfance, de proposer des choix, mais dans un cadre. C'est-à-dire, tu as 3-4 propositions, et puis tu choisis à l'intérieur de ça. Ça permet à l'enfant d'apprendre le processus du choix, la notion du choix. Et puis progressivement, plus il grand dans l'autonomie et dans la maturité, plus on peut le lâcher en disant « mais maintenant, fais tes choix, tu sais faire ». Et ça, c'est important pour lui, mais c'est aussi important qu'il apprenne à faire des choix qui sont en lien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Et un choix bon pour lui peut avoir des répercussions sur les autres. Et c'est important qu'il puisse se décentrer de sa propre personne pour rentrer dans en quoi mon choix a des conséquences sur moi, sur ma vie et sur les autres. Et c'est cet équilibre-là qui va faire la différence entre un bon choix et un mauvais choix.
Dans le domaine des acquisitions, il y a aussi celle qui consiste à apprendre à attendre. C'est toujours pas simple.
Hein. Oui, apprendre à attendre, c'est quelque chose d'important. Je parle aussi de notion de créer du vide. Je prends souvent l'exemple de la nourriture. quand est-ce qu'on a envie de manger? Quand on a faim? Quand est-ce qu'on a faim? Quand l'estomac est vide. Et quand on a l'estomac vide, on va mobiliser une énergie folle pour la remplir. Si l'estomac est plein, vous n'avez pas envie de manger. Ça devient même une contrainte, c'est désagréable de se mettre à table. Mais c'est un peu la même idée au niveau psychologique. C'est-à-dire, c'est, nous avons l'habitude de nourrir les besoins de nos enfants avant même qu'ils aient eu le temps de les identifier et avant même qu'ils aient eu le temps de dire « tiens, j'ai besoin de ça ». Donc on se retrouve avec des enfants qui sont un peu gavés, si je peux me permettre de l'expression, et qui n'arrivent même plus à ressentir l'envie ou le besoin parce qu'ils ont trop reçu. Donc c'est important de leur apprendre à gérer la frustration et à gérer l'envie, parce que c'est la frustration et c'est le vide, c'est l'attente qui va faire qu'il va se mobiliser pour obtenir ce qu'il souhaite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on attend des ados qu'ils se mobilisent à l'âge de l'adolescence, ben c'est important de leur apprendre à se mettre en mouvement pour obtenir ce qu'ils veulent.
Merci Pascal Roux, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre volet de cette crise d'adolescence. Bonne journée.
Merci.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.